tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditrices de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits des humains, section Nantes, autrement dit de la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, principalement au coin de la rue de Coulmiers et de la rue d'Allonville. Bien sûr les apéros, bien sûr les pizzas, et aussi une restauration quasi gastro. Côté chronique, nous allons aujourd'hui ne pas nous en moquer. Nous allons surtout ne pas la relayer à l'éternel second plan. Nous allons en prendre soin et jeter le tiroir caisse. Aujourd'hui, nous allons inviter l'écologie autour de la table. L'écologie locale ou l'écologie nationale. Bref, la cause écologique qui, nous le savons, n'a pas de frontières. Pour nous emmener dans ce voyage de verdure, Élodie et Nathalène, nos investigatrices de choc et surtout de charme, ce qui n'enlève rien au choc, seront accompagnées de Philippe, Camille et Marie Lazarine. Tous et toutes adhérents et adhérentes de la LDH 44 et bien entendu membres du groupe de travail écologie. Cette chronique est aussi l'occasion de rappeler ce qui va se passer bientôt. Nathalène, Élodie, l'une ou l'autre, c'est à vous.
Alors au niveau de l'agenda qui n'est pas à proprement parler l'agenda LDH, le 5 juin à Cosmopolis, c'est-à-dire demain, commencera l'exposition « Terre souillée, corps blessé » jusqu'au 13 juillet sur l'impact des mines dans les pays andins avec des photographies de l'Italien Alessandro Cinque.
Philippe, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi la Ligue des droits des humains s'intéresse à l'écologie ?
Alors effectivement, les déclarations historiques relatives aux droits n'évoquent pas ou de manière très, très lointaine les aspects écologiques. Ceci dit, on se rend compte de plus en plus que les droits de chacun ne peuvent être mis en œuvre que si on vit dans un environnement sain, si on peut respirer, manger, vivre dans un environnement sain. Et donc, de plus en plus, on se dit que ces aspects sont totalement indissociables.
Il y a eu des prises de position au niveau national, notamment en 2022-2024. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ?
Oui, effectivement. Donc, sur le plan, y compris local, on a pu avoir des actions beaucoup plus anciennes. Par exemple, lorsqu'il y a eu à Nantes les manifestations à propos de l'Erika, la section de Nantes était très impliquée dans ces manifestations. Mais sur le plan national, il y a un groupe de travail sur l'environnement qui s'est mis en place il y a quelques années et qui a beaucoup travaillé et réfléchi sur comment intégrer les problématiques écologiques à l'action de la LDH. Et donc, ça a pris deux voies. D'une part, une résolution qui a été adoptée en Assemblée générale en 2022 et qui s'intitule « Environnement, écologie et droit », donc qui met bien sur le même plan ces deux aspects. Et puis, une modification de nos statuts pour pouvoir enfin agir dans le domaine de l'écologie, ce que la LDH ne pouvait pas auparavant, du fait de la rédaction de ces statuts, qui datent quand même de 1898.
Et alors parlons maintenant au niveau local, donc c'est tout nouveau ce groupe de travail à Nantes. Alors est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a motivé personnellement à vous impliquer dans ce groupe de travail, Marie Lazarine ?
En fait, il y a le groupe de travail qui est tout nouveau, puis il y a aussi moi qui suis toute nouvelle à Nantes, parce qu'en fait j'ai été adhérente de la Ligue, mais dans une petite section des Ardennes, mais... À titre personnel, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui est, enfin très motivée par tout ce qui concerne la protection de l'environnement, mais aussi les droits des humains. Donc, dès que je suis arrivée à Nantes il y a un an, je me suis rapprochée de la section nantaise. Et naturellement, quand on a parlé d'un groupe de travail sur l'écologie, je me suis sentie concernée. Donc ça, c'était la première raison. Et puis, pour moi, de toute façon, c'est impossible de concevoir des droits des humains si on est dans une planète, sur une planète qui n'est pas vivable de toute façon, si on n'a pas accès à la santé, si on n'a pas accès à de la nourriture, ça n'a pas de sens en fait. Hein. Donc déjà ça c'est important. Et puis aussi, vraiment dernièrement, ces dernières années, moi je suis choquée de la criminalisation, je vais y arriver, oui. de tout ce qui est militant, lanceur d'alerte en écologie et de la violence à laquelle on réprime en fait tous ces mouvements. Et voilà, c'est ça aussi motivé non seulement mon adhésion à la Ligue, mais à rejoindre le groupe écologie.
Très bien. Et d'ailleurs, dans ce groupe, alors on a parmi nous aussi Philippe et Camille. Vous faites aussi partie d'un autre groupe de travail, Numérique et Liberté. Donc, vous ne vous ennuyez pas. Donc, pourquoi, Camille, avoir eu envie de rejoindre aussi en plus ce groupe de travail ?
Eh bien, pour ma part, c'était parce que j'ai été surpris que la section de Nantes, qui est une grande section qui compte, si je ne fais pas erreur, plusieurs centaines d'adhérents, n'ait pas de groupe de travail sur le sujet. Alors, moi, je suis un adhérent récent. On m'avait parlé d'un projet de groupe de travail sur l'écologie quand on m'a accueilli. Et l'année où j'ai adhéré, c'était plutôt après l'épisode du projet de loi en grande partie censuré par le Conseil constitutionnel sur l'immigration, mais c'était aussi durant l'année 2023, en avril, le moment où le gouvernement avait mis en cause la Ligue des droits de l'homme parce que parfois elle défendait l'état de droit par rapport aux libertés de manifester, ou liberté de s'engager pour des causes environnementales, ou elle était observatrice sur des terrains de lutte écologique en vertu de ce que permettent les traités internationaux pour garantir justement le droit de manifester. Et donc pour moi, c'était plutôt logique que cela arrive. Et je pense aussi, à titre personnel, que l'écologie et la défense du climat sont certainement des choses qu'on a intérêt à défendre pour bien vivre et puis aussi pour vivre dans un état de droit.
Merci. Eh bien, on va revenir justement, juste après la musique, on va parler écologie et droits de l'humain. En quoi sont-ils liés ?
La maternelle, j'entends parler d'effet de serre. La maîtresse nous disait, pensez à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Sur les bancs du lycée, on a parlé de la croissance. Mon prof éco disait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien ne vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitaliste fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Des envies, des synthèses, la guerre ou la consommation. Chômeur consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation?
La croissance n'est pas la bonne appellation. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Alors on va rester avec Camille pour cette nouvelle question. En quoi précisément donc écologie et droits de l'humain sont liés ?
On a eu nous-mêmes des débats au sein du groupe de travail pour savoir qu'est-ce qui faisait dans les droits humains que l'écologie était quelque chose déjà de bien ancré. Et je vais vous donner quelques éléments de droit international et de droit national sur ces droits. Tout en précisant que je ne suis pas juriste et au sein de la section, si quiconque voulait s'y impliquer, nous ne sommes pas une assemblée de juges et d'avocats spécialistes de la question. Voilà. Donc première chose, c'est que déjà les droits humains, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, traitent indirectement du cadre de vie et de l'environnement. À travers le droit à la vie, à la santé, un niveau de vie suffisant, donc ça dès 1948. Et j'ai parlé des traités qui permettaient de protéger le droit de manifester et d'être observateur de manifestations. C'est le cas des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels qui ont été adoptés par les Nations Unies à la fin des années 60. Donc on n'est pas sur quelque chose d'absolument récent. Autre chose, c'est que depuis 2015... vous savez, il y a l'accord de Paris et on est dans le pays de Make Our Planet Great Again. Donc, on a des choses qui protègent le droit de l'environnement depuis quelques années. En France, si vous vous souvenez de la phrase du président Chirac qui disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », ça s'est tout de même concrétisé par quelque chose qui est la charte de l'environnement qui fait partie du bloc constitutionnel en France, ce qui n'est pas rien. Ça peut donner lieu à des applications immédiatement après, mais récemment, le Conseil constitutionnel, dans des décisions 2020 et 2022, qui, me semble, faisaient suite à des questions préjudicielles de constitutionnalité, QPC, et a pu dire que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même type que les intérêts fondamentaux de la nation. Donc, on est loin de considérations d'éco-terroristes. C'est le Conseil constitutionnel qui dit que l'environnement est parmi les choses qu'on a l'une des choses les plus précieuses dans notre République et donc dans notre démocratie. Le droit aussi d'avoir un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est quelque chose qui a été récemment consacré par la jurisprudence du Conseil d'État. Et si vous vous souvenez, par exemple, des recours de l'affaire du siècle pour la pollution, voilà, il y a eu des condamnations de l'État pour ne pas avoir réussi à protéger la population de la pollution.
Et alors justement, est-ce que, en dehors de ce cas précis, est-ce que vraiment toutes ces déclarations et tout traité éventuellement, est-ce que ça a donné lieu à des résultats concrets ?
Concrètement, ça fait que les citoyens, s'ils sont par exemple empêchés de manifester, s'ils pensent que leur cadre de vie n'est pas bien protégé, s'ils pensent qu'un projet ne répond pas aux caractéristiques d'intérêt public majeur, peuvent faire des recours et peuvent faire valoir leurs droits.
Oui, il faut bien voir que, y compris tous ces textes internationaux, et il y en a d'autres, comme la Convention d'Aarhus, par exemple, que Camille vient de citer, ils se sont ajoutés aux autres conventions et traités internationaux. La nouveauté, c'est que on estime que le droit à vivre dans un écosystème sain est totalement lié aux autres droits dont chaque être humain peut se prévaloir. Et donc, jusqu'à présent, la plupart de ces conventions étaient un peu mises en concurrence avec les règlements de l'OMC ou autres. Et là, on essaie de se battre pour que, justement, comme le Conseil constitutionnel vient de le reconnaître, la protection de notre écosystème est totalement indissociable de la protection des autres droits.
Moi, je voulais revenir sur le terme d'éco-terroriste. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, est d'accord pour reconnaître le changement climatique, la nécessité de défendre notre environnement. Et en même temps, on a l'impression que j'ai jamais eu autant de menaces sur les personnes qui défendent l'environnement.
Oui, alors la LDH, de tout temps, dès sa création, a revendiqué le fait de protéger toute personne qui en aurait besoin. Dans le manifeste de création de la LDH, il est dit « à partir de ce jour, Toute personne dont la liberté serait menacée ou dont le droit serait violé est assurée de trouver auprès de nous, LDH, aide et assistance. Donc, de ce point de vue, le fait que ces personnes se battent pour l'écologie ou pour d'autres causes, dès lors que ces personnes sont poursuivies et mises en cause, la LDH est à leur côté. La nouveauté, c'est que maintenant, on assiste vraiment, effectivement, à une explosion des cas où les défenseurs de l'environnement se trouvent agressivement mis en cause.
Je voulais juste rajouter que des gens qui défendent l'environnement, ils sont pas juste... en fait, ils défendent l'environnement de tout le monde. C'est un bien commun. Et donc, en fait, c'est d'autant plus préjudiciable qu'ils subissent des attaques qui sont toujours disproportionnées par rapport aux actes qui sont faits, qui sont généralement et même quasiment toujours non violents et même sans dégradation. On n'a pas à se retrouver, avoir un procès ou autre pour quelque chose qui ne fait pas de mal, qui ne cause pas de dommages et qui, en plus, est vraiment... dans une idée de bien collectif. L'environnement, c'est collectif.
Et justement, par rapport à ça, la LDH, je pense, soutient des militants qui ont été jugés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à ce sujet ?
Oui, alors ça fait partie des dossiers qui sont suivis par notamment le groupe de travail national, puisque, comme je le disais, il y a un groupe de travail national depuis plusieurs années. Partout en France, il y a des militants qui sont mis en cause. On a vu récemment dans l'actualité qu'a été évoqué le projet d'autoroute A69, les militants qui luttent pour empêcher ce projet particulièrement destructeur pour l'environnement font l'objet de répressions extrêmement féroces qui sont attentivement documentées par la section toulousaine de la LDH.
Oui, ça vaut le coup peut-être d'un petit rappel. Donc l'autoroute, donc le projet d'autoroute A69 qui a donc été ce projet annulé faute de nécessité impérieuse à réaliser par le tribunal administratif de Toulouse. Mais ceci dit, on voit que là, la justice fait marche arrière et réclame donc la relance du chantier. Donc elle accorde en fait le sursis à exécution qui est demandé par l'État.
Oui, alors la justice, en fait, la cour d'appel a jugé administrative, a jugé sur la forme en disant oui, mais on n'est pas certain qu'il y ait effectivement qu'il y ait ou pas une utilité publique impérative pour porter atteinte à l'environnement. Donc, comme on n'est pas sûr, on ne peut pas, dès aujourd'hui, sursoir à la construction de cette autoroute. Donc, elle a juste dit ça. Elle n'a pas demandé à ce qu'on redémarre les travaux. Mais, fort de cette incertitude, l'État, aujourd'hui, dit « Ah ben, puisqu'on n'est pas obligé de suspendre, eh bien, on poursuit ».
Voilà, on en parlait en antenne, ça a été le cas pour le pont à l'île de Ré, par exemple.
Oui, qui est un cas beaucoup plus ancien, mais effectivement, à l'époque, il a été construit sans permis de construire, et à ma connaissance, il ne l'a toujours pas. Mais je me trompe peut-être.
Camille, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, peut-être un principe qui a été posé par le Conseil constitutionnel en 2023, et je vous le cite in extenso, c'est que le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins en préservant leur liberté de choix à cet égard. Ce qui est assez net, ce qui n'a pas forcément trouvé à s'appliquer, il me semble, dans le recours qui avait lieu à l'époque contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Néanmoins, ça engage la responsabilité des décideurs s'ils vont contre ce principe. Et... par exemple, en matière de droit de l'environnement, vous avez aussi parfois une répression par le code pénal si, par exemple, vous décidez de porter atteinte à l'environnement, par exemple des espèces protégées, alors que vous n'avez pas eu une autorisation. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. And the fake plastic girl.
Camille, tu voulais nous repréciser un propos tenu un peu plus tôt.
Il n'y a pas de questions préjudicielles de constitutionnalité, mais des questions prioritaires de constitutionnalité. C'est lorsque, au cours d'une procédure judiciaire, vous estimez que la disposition législative qui peut vous porter atteinte n'est pas constitutionnelle, et ben vous pouvez saisir par écrit le Conseil constitutionnel. Pourra trancher si oui ou non cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Merci de cette précision. Je propose qu'on passe aux questions locales, aux menaces concrètes qu'on connaît sur la région nantaise, et notamment les questions de pollution de l'eau avec les polluants éternels. Philippe, tu veux répondre ?
Oui, effectivement. Donc notre département, comme l'ensemble du territoire français et au-delà, est concerné par la pollution de l'eau par différents polluants, notamment les polluants éternels, les fameux PFAS et les polyfluoroalkyles de mémoire. Où les pesticides et les molécules dérivées des pesticides quand ils se décomposent plus ou moins lentement dans l'environnement. Et effectivement, on a constaté dans le nord de la Loire-Atlantique, du côté de Nord-sur-Erde notamment, que les ressources en eau potable qui sont utilisées pour le réseau d'alimentation de tout un chacun sont contaminés par ce type de polluants toxiques et à des niveaux qui commencent à poser problème, au sens où ce sont des molécules qui sont très difficiles à traiter et dont le traitement peut être très coûteux et en plus pas toujours très efficace. Donc on risque d'arriver à une situation où on ne saura plus distribuer au robinet une eau qu'on puisse garantir potable.
Oui, Camille.
Et peut-être pour illustrer l'affaire des PFAS, certains des auditeurs auront peut-être vu le film Dark Water qui explique comment, dans un contexte américain, le combat juridique a pris plusieurs décennies pour un problème qui aura des conséquences pendant encore bien des décennies. Dans la région, vous aurez peut-être noté en début d'année des articles qui relevaient des analyses qui concernaient des taux assez élevés en Loire-Atlantique sur certains types, sur certaines molécules de ce type, et aussi les associations UFC Que Choisir et Génération Future qui ont noté qu'il y avait des sites autour de Nantes qui étaient concernés, notamment à Saint-Herblain.
Très bien. Alors, on voit aussi que, donc, toujours en restant au niveau local, que la LDH soutient, organise notamment des débats, comme celui qui s'est tenu à Divat-sur-Loire après la représentation Simple Prêcheur du collectif Gigaphone. Est-ce que, Philippe, tu peux nous en dire un mot ?
Oui, effectivement, le collectif Gigaphone a élaboré une pièce de théâtre sur les problématiques environnementales et de comment lutter pour protéger son environnement et comment vivre les différentes répression qu'on subira en faisant cette lutte, et a fait une représentation à Divat-sur-Loire dans laquelle à l'issue de laquelle nous étions invités à animer un débat, et c'était un débat tout à fait passionnant dans laquelle la salle a été très active sur justement qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on risque et comment la démocratie environnementale peut-elle être respectée dans le contexte actuel.
Alors, même si le groupe local est encore jeune, est-ce qu'on pourrait parler des collaborations que vous commencez à développer avec des collectifs locaux qui, eux aussi, sans doute d'une manière différente, mais peut-être qu'on reviendra à ça après, traitent les problèmes, les enjeux écologiques ?
Oui, effectivement. Le GT Nantais, le groupe de travail Nantais écologie et droit a été créé cette année. Donc il est encore dans la première enfance. Et donc on est là aussi pour apprendre, pour découvrir et pour essayer de déterminer ensuite, en fonction de ce qu'on apprend autour de nous, de quelle manière la section de Nantaise et du pays nantais pourra au mieux participer à ces luttes collectives. Donc dans ce but, on a rencontré notamment France Nature Environnement, qui nous a expliqué un petit peu son action, les enjeux qui les préoccupent, dont notamment la pollution de l'eau potable dont on parlait tout à l'heure. Et on reste en contact, bien entendu, pour voir comment, si on a l'occasion d'agir ensemble. Et il est tout à fait possible et à mon sens souhaitable, qu'on contacte également d'autres associations et collectifs concernés.
Et comme le dit Philippe, le groupe de travail est récent, il s'inscrit suite à un débat lors de notre Assemblée Générale à ce sujet. Et comme on est une association attachée à la démocratie, on débattra aussi des terrains sur lesquels la section aurait à s'engager prochainement ou dans les prochaines années. Et à noter que parfois nous avons aussi des débats entre nous sur comment nous y prendre, sur comment le faire. Et je pense qu'une des choses qu'on constate tous assez unanimement, c'est que le fait qu'une association généraliste comme la Ligue des droits de l'homme s'intéresse à quelque chose qui aurait pu paraître il y a quelques années comme spécialisé, l'écologie ou les sujets d'environnement, c'est en soi une nouvelle, comme quoi les valeurs de droits humains et de démocratie sont devenues plus généraux et importants pour tout le monde.
Très bien, j'allais y venir justement. On va finir peut-être par Marie Lazarine. Justement, qu'est-ce que la LDH peut apporter de plus par rapport à toutes ces associations qui sont déjà existantes et bien implantées?
Ça me semble vraiment important qu'une association qui est ancienne, qui est nationale, qui est bien représentée, qui a quand même une grosse notoriété, s'investisse dans le droit et concernant l'écologie, me semble donner du poids, et surtout montrer que l'écologie, c'est pas quelque chose qui concerne que les gens qui sont taxés d'écolo, ça concerne pas que les amoureux de marmottes, de blaireaux et de petits oiseaux, hein. Ça concerne tout le monde, vraiment tout le monde, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
C'est sur ces mots que s'achève notre chronique.
Merci à Philippe, Camille et Marie Lazarine. Si vous avez des réactions, des questions ou des réponses à la chronique que vous venez d'écouter, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Rappelons aussi que cette chronique vous est proposée par la LDH nantaise en collaboration avec Jet FM. Et c'est grâce à ce partenariat généreux avec Jet FM que la chronique a vu le jour et qu'elle a perduré depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, suite à de nombreuses coupes budgétaires, Jet FM est plus que menacé. Après s'être résolu à 2 non-reconductions de contrat, Jet FM a dû acter 2 licenciements économiques. Et malgré tout ça, la pérennité de Jet FM n'est pas assurée. Aussi, toutes les aides financières, logistiques ou même les soutiens qui consistent à envoyer un petit mot, tous les ralliements en quelque sorte sont très bienvenus. Par ailleurs, comme tout ira beaucoup mieux très bientôt, eh bien, nous vous souhaitons un joli mois de juin et un été salvateur. Nous vous donnons donc rendez-vous peu après la rentrée, au début du mois d'octobre, pour une saison riche en chroniques. D'ici là, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de Jet FM, la station des droits et des libertés.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux.